Emmanuel Petiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'Einov. On va parler avec vous de votre actualité. Vous rencontrez des investisseurs ici au Palais Brongniart. Bien sûr, ils ont en tête les résultats semestriels. Qu'est-ce que vous leur dites principalement déjà sur où en est d'Einov en cette année 2015?
On leur explique plusieurs choses. Déjà qu'on est en rythme de croisière. On a également réussi à réduire notre perte opérationnelle cette année, ce qui est plutôt pas mal. Et nos dépenses de recherche sont plutôt stables, en tout cas sous contrôle. Malgré ça, on a investi. On a investi dans des équipements supplémentaires. On a notre capacité de fermentation, donc fermentaire, qui a augmenté de manière significative. On a 500 mètres carrés de laboratoire supplémentaire. On a un robot de clonage tout neuf. On a un irradiateur. Donc tout ça va nous permettre d'aller vers l'industrialisation que tout le monde attend. Donc c'est le message principal qu'on passe à nos investisseurs potentiels et existants, c'est que la plateforme avance de manière résolue. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais on vient d'embaucher également une directrice des opérations qui a pour mission de développer la technologie de d'Einov avec nos clients, de manière à ce qu'on puisse, dans les deux années et demie, commencer à commercialiser de manière effective notre technologie. Et je crois que ce sont des messages relativement forts.
On rappelle, vous êtes vous dans les produits innovants justement pour développer des biocarburants. On a beaucoup parlé de pétrole ces temps-ci. Forcément, les investisseurs, ils ont sans doute que ça en tête en se disant, oui, mais vous avez vu, le prix du pétrole baisse. Alors, est-ce que ça va pas retarder les projets d'Einov, justement, ces projets que vous évoquez?
Alors non, c'est un paramètre qu'on doit prendre en compte, mais ça ne retarde pas les projets de d'Einov dans la mesure où la molécule qu'on a choisie est l'éthanol, que l'éthanol aujourd'hui est plus ou moins une obligation, pas réglementaire, mais en tout cas imposée par les gouvernements, que les pétroliers doivent mélanger l'éthanol à l'essence et que donc c'est un marché qui existe. D'autre part, nos clients et nos clients potentiels, nos prospects, ont mis en place des usines qui fabriquent de l'éthanol de seconde génération. Donc aujourd'hui, ils ont investi des centaines de millions de dollars et d'euros dans des capacités de production qu'ils doivent faire tourner. Donc c'est une obligation pour eux de trouver des technologies qui vont leur permettre de faire tourner ces usines de manière rentable. Et la technologie de d'Einov sur ce domaine va leur permettre de mettre en place une solution beaucoup plus compétitive que ce qui existe aujourd'hui. Donc le baril de pétrole est peut-être de manière temporaire, j'en sais rien, je ne suis même pas certain que les pétroliers le sachent eux-mêmes, est à un niveau qui est plutôt bas, mais ça n'impacte pas du tout notre stratégie sur le plan, je dirais, éthanol. De manière à pouvoir également gérer cette situation et exploiter la plateforme de manière intelligente, on a mis en place deux choses. On a renforcé le programme caroténoïdes, qui sont des ingrédients de spécialité. Et là, que le pétrole soit à 45 ou à 150 dollars, l'impact est minime. Et on a également diversifié la plateforme vers ce qu'on appelle l'acide muconique. Alors c'est intéressant parce que l'acide muconique est une molécule plateforme. Ça veut dire que la fermentation fabrique cette molécule et que la chimie prend le relais. Donc grâce à une catalyse chimique, des grandes sociétés au niveau mondial vont pouvoir fabriquer des molécules qui aujourd'hui sont fabriquées de manière très sale, pas pérenne, grâce à notre technologie. Donc en résumé, l'éthanol fonctionne bien et ça continue à être une priorité. L'acide muconique nous permet de diversifier la plateforme vers des molécules d'intérêt qui sont un peu moins des commodités. Et enfin, on a les spécialités avec des caroténoïdes et on avance extrêmement vite sur ce domaine.
Aujourd'hui, vous avez franchi des étapes, vous estimez avoir franchi un certain nombre d'étapes clés ou importantes dans ces deux projets?
Oui, tout à fait. Donc la partie éthanol, donc on est en train au fur et à mesure de mettre à l'échelle. Il faut bien comprendre que ce qu'on a fait, et notamment récemment par l'intermédiaire de cette signature avec Titan Bioenergy System, qui est une société américaine, c'est de faire en sorte que la bactérie peut convertir le plus de biomasse possible. C'est-à-dire que la bactérie, on ne peut pas dire qu'elle va être totalement polyvalente et convertir n'importe quelle biomasse. Donc il faut qu'on s'adapte un tout petit peu. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que c'est un travail qui est extrêmement important. Et on est en train de démontrer qu'avec nos partenaires, la bactérie fonctionne sur un certain nombre de biomasse. La deuxième chose, évidemment, c'est que notre capacité fermentaire augmente. Donc on multiplie les essais, on les réplique. Et l'idée, c'est assez rapidement d'aller vers des fermentations de plus gros volume. On a récemment réalisé des essais dans des fermenteurs de 20 litres avec des sucres de seconde génération. C'était la première fois qu'on avait des résultats qui étaient positifs sur ces domaines. Et donc c'est une étape importante. La partie acide muconique, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, la preuve de concept, on l'a développée en 7-8 semaines. Donc à partir d'une bactérie qui ne fabrique rien, grâce à notre plateforme d'ingénierie génétique et métabolique robotisée, on a réussi à faire en sorte que la bactérie fabrique de l'acide muconique assez rapidement. Donc ça, c'est aussi une performance et une milestone importante qu'on a passée. Et les caroténoïdes, ben, on met en place différents projets. On a signé un accord avec le Canadien POS Biosciences qui va leur permettre de nous fournir le premier lot extrait de caroténoïdes. Et là, on est dans le produit tangible qu'on va ensuite qualifier au niveau technologique, au niveau fonctionnel, au niveau réglementaire. Mais le produit est là, chez nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose de relativement significatif.
Alors, il y a eu aussi des dépôts de brevets en Chine. Est-ce que ça veut dire aussi que vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire en Chine également ?
Alors, pas spécifiquement en Chine. Notre stratégie brevetaire est extrêmement agressive, je dirais. On a aujourd'hui 19 familles de brevets. On a plus de 180 demandes de brevets au niveau international. Donc, on dépose dans les pays clés, les pays où on veut être protégé, mais aussi les pays qui ont une biomasse abondante, mais également les pays où on peut négocier avec des clients potentiels. Donc, effectivement, la Chine est un pays important pour pouvoir protéger notre technologie. Il n'est pas impossible que certains industriels chinois soient intéressés. Aujourd'hui, évidemment, on a aussi un peu un tropisme américain. Donc, on a par exemple eu notre premier brevet américain qui nous a été octroyé récemment. Et on a un effort significatif et conscient dans ce domaine aux États-Unis, mais je dirais à travers toute la planète. Donc, c'est un de nos gros postes de dépenses aujourd'hui. C'est la partie brevetaire. On continue à le faire. C'est indispensable. Et ça assoit notre technologie de manière extrêmement crédible.
Alors, par rapport à tous ces développements, comment évolue la situation financière d'Einov et comment vous pouvez faire face justement à peut-être à mener tous ces projets de front?
Alors, il faut bien comprendre que ces projets se greffent sur une plateforme qui est ce que j'appelle le tronc commun. Donc, on a consolidé cette plateforme à Montpellier aujourd'hui. On a 1500 m² de laboratoire qui fonctionne en symbiose. Donc, on peut tout à fait imaginer développer par exemple de l'acide muconique à partir des ressources qui sont utilisées aujourd'hui pour l'éthanol. Donc, elles sont mutualisées. Donc, on a une diversification intelligente et pas une dilution de l'effort du tout. Ensuite, au niveau financement, d'abord, on a du cash en banque. Donc, ça, c'est, vous pouvez le voir dans le résultat semestriel. Les dépenses de R&D sont sous contrôle. On a un accord avec une banque qui nous permet de lever des fonds au fil de l'eau de manière régulière. On a des étapes clés qu'on passe régulièrement. Cette année, on a quand même passé une étape clé avec BPI France, avec l'ADEME. Donc ça continue à courir. Et donc, on n'a pas de problème de financement court terme. Cela étant dit, évidemment, on est toujours à la recherche d'investisseurs. C'est pour ça qu'on rend les rencontres aujourd'hui à Paris.
Les perspectives, donc les prochains moments clés pour vous, comme toujours pour ces sociétés de biotech, on attend les prochains moments importants. Quels sont-ils ?
C'est toujours la même chose, on tourne autour de résultats de recherche et de partenariats. Donc il faut qu'on puisse signer des partenariats dans les domaines qui nous intéressent. Ça peut être l'acide muconique, ça peut être les caroténoïdes. On a déjà une assise partenariale extrêmement forte. On a quand même des accords avec Avril, avec Suez Environnement, avec Abengoa, avec Titan Bioenergy. On a signé des partenariats technologiques avec MBI aux États-Unis, avec POS Biosciences au Canada, avec le VTT en Finlande. Donc on est relativement fort dans ce domaine. Mais il est bien évident qu'on a vocation à se développer de manière encore plus stratégique et agressive dans ces domaines. Donc on doit voir certains partenariats émerger dans les mois qui viennent. La deuxième chose, évidemment, c'est les résultats de recherche. Donc c'est des résultats qui sont encore plus ambitieux et c'est des résultats dans des fermenteurs de plus grande taille. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille au quotidien avec nos partenaires technologiques que je viens de mentionner. Et c'est des choses qui avancent de manière réelle. On a parlé tout à l'heure de la biomasse. Et ensuite, il faut fabriquer de l'éthanol ou de l'acide muconique dans des volumes qui ne sont pas seulement des volumes de laboratoire. Aujourd'hui, on maîtrise très bien le 20 litres. Bah, il faut qu'on maîtrise le 500 litres et le mètre cube. Et on s'y attelle tous les jours.
Eh bien, on suivra ça. Merci Emmanuel Pétiot.
Merci à vous.